Et maintenant, un bon boîte de casque.
Bien, voilà. Eh bien, je suis en compagnie de Cédric Gaumont et Thomas Provost. Mais non. Donc, on fera ça une autre fois. Avec
oui, il est dans un bouteillage.
Mais ce sera avec plaisir qu'on se recroisera à un autre moment. Donc, que fais-je ici? Eh bien, je suis dans une société d'édition de jeux de société, juste.
Hein, absolument, Repos Production.
Qui a un succès de plus en plus important.
J'espère.
Dans le sens où, ben, partout où je vais, ou les articles que je lis, ou la présence internet fait qu'on parle des fous furieux à sombrero, des belges à sombrero partout. On parlera peut-être du sombrero un peu plus tard, bien que Cédric a décidé de ne pas le mettre aujourd'hui.
Oui, mais il n'y a pas l'image là.
Non.
Ça va.
J'ai pris mon appareil photo, mais non.
Ah merde.
Dans l'optique de peut-être montrer ce que c'est un joueur, même novice, quelles sont les étapes de création d'un jeu, d'édition d'un jeu, enfin, que s'est-il passé quand la personne achète sa boîte dans un magasin? Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aborder le sujet avec toi, Cédric, à savoir, c'est quoi un métier d'éditeur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un éditeur? Donc, on a l'occasion de rencontrer des créateurs, des gens qui ont des idées, qui ont envie de les mettre en place, et on se rend compte que ils doivent passer par certaines étapes, dont l'édition.
Voilà, l'éditeur, en fait, c'est ce qu'il y a entre l'idée et, on va dire, le produit en magasin. Mais il n'y a pas d'ailleurs que l'éditeur, il y a d'autres métiers, d'autres corps de métiers qui interviennent entre deux.
Oui.
Pour résumer peut-être un peu la genèse d'un jeu, comment ça se passe? Eh bien, un jour, un auteur a une idée dans son bain, en préparant la cuisine, je ne sais quoi. Et il décide de la formaliser au travers d'un prototype, en collant quelques morceaux de papier, quelques morceaux de carton. Il va le tester avec ses potes, qui forcément vont lui dire que c'est bien et que c'est sympa, parce que ce sont ses potes, mais ce n'est pas toujours le cas.
Sauf s'il plombe la soirée plusieurs fois avec son prototype.
Ouais, on ne sait jamais, ou alors ses potes sont vraiment honnêtes. Et, mais bon, de temps en temps, un auteur fait un bon jeu, enfin, même très souvent, et après, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai une jolie boîte à chaussures avec quelque chose d'intéressant. on a un chat qui essaie de s'échapper en même temps. D'accord. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mon proto et maintenant j'aimerais bien qu'un jour il soit dans une belle boîte avec des belles images et dans un magasin. Donc c'est là que va intervenir l'éditeur, parce que si l'auteur est un peu motivé, il va probablement nous envoyer un email ou un courrier en disant bonjour, j'ai une idée, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ce cas-là, j'ai une réponse type qui est, première chose, envoyez-moi un descriptif et éventuellement une photo ou une petite imagette de votre jeu qu'on voit à quoi ça ressemble. Mmh. Ce qui nous permet à nous de filtrer le nouveau jeu de questions sur l'Europe, parce que ça j'en ai reçu au moins, Repos Production a 3 ans d'existence maintenant, et les jeux de questions sur l'Europe j'en ai au moins reçu 7 ou 8. Donc, ouf, on ne les a pas édités. Alors, cela dit, il pourrait très bien y avoir un très bon jeu de questions sur l'Europe, mais c'est pas mon créneau.
Voilà, on parlera du
créneau. Et donc, on demande un descriptif aux auteurs. Si le descriptif nous accroche, après, on demande les règles du jeu pour se faire une meilleure idée. Mm-hmm. Bien que, à la lecture des règles, on ne peut pas tout appréhender d'un jeu, mais on cerne déjà plus de quoi il s'agit. Mm-hmm. Et après la lecture des règles, si vraiment ça a l'air sympa, on demande un prototype à l'auteur ou aux auteurs. Et là, pour eux, c'est un véritable cauchemar, parce qu'il se passe entre 6 mois et 1 an avant qu'on ait enfin eu ou pris le temps de tester le jeu. Pourquoi 6 mois, 1 an? C'est parce qu'il y a certaines périodes dans l'année pour nous qui sont des gros rush boulot, à savoir les fêtes de fin d'année, parce qu'on est un peu toujours barré, faire des démos à droite, à gauche. C'est là où les produits arrivent, où on doit, épauler nos produits pour les présenter. Et donc, forcément, quand on est en démo toute la journée, on n'est pas le soir à retester des protos. Et on a aussi certaines périodes qui sont les périodes de salon. Donc là, c'est début d'année, c'est février, avec Nuremberg, Cannes. Et enfin, on a l'été. En fait, on bosse toute l'année, tiens. Mais l'été, où, l'été, on est en plein rush production pour finir les fichiers de PAO, etc., de tout ce qui doit être livré en septembre, octobre, dans le pire des cas, pour la fin d'année, justement.
Okay.
Donc, ces périodes de rush se s'enchaînent. Et je dirais, entre deux, heureusement, il y a des périodes où on a un petit peu plus de temps, ce qui nous permet d'une part de refaire des soirées jeux et d'en profiter un peu avec les potes, parce que avant d'être éditeur, on est quand même joueur. Donc c'est sympa de faire des jeux. J'ai découvert ça, c'est vraiment chouette. Et bon, bah, ces soirées jeux sont aussi l'occasion de tester les protos qui sortent un peu du lot.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après le test du proto?
Si le proto fonctionne, voilà. On se rend compte qu'il y a quelque chose.
Alors, si le proto fonctionne ou si le proto s'avère être une super idée et ne fonctionne pas, ce qui est possible aussi. Bah, dans ce cas-là, on va recontacter deux solutions. On va recontacter l'auteur en lui disant, bah, écoute, ton jeu nous plaît bien. Il y a probablement beaucoup de réglages, beaucoup de développement à faire, mais... ça nous plaît bien, donc voici nos idées, voici les bugs sur lesquels on est tombé. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Voici les idées que nous, on a eues qui pourraient pallier à ça. Donc, on essaie d'ouvrir quelques portes à l'auteur, parce que c'est pas toujours évident d'avoir du recul vis-à-vis de sa création. Bon, des fois, on est un peu trop sec ou trop franc, si on veut, en disant ça, c'est vraiment pas bon, à tel moment, ça pose problème. Il faudra à tout prix rajouter ça, mais je pense que c'est là le métier
d'éditeur. C'est là que le lien est intéressant aussi, mais il faut pas être susceptible, quoi.
Voilà, oui, tout à fait. Il faut savoir ménager son ego. Oui. Ou alors, on va tomber sur un jeu qui fonctionne très très bien dès le début, où il n'y a pas grand-chose à changer. Et dans ce cas-là, bah, on peut proposer d'autres développements. Parce qu'en fait, je pense que le boulot d'un éditeur, c'est de trouver un bon jeu et d'essayer d'en faire un très bon jeu.
Oui, d'accord.
Bon, je dis ça peut-être par manque de modestie, et on n'a peut-être pas toujours réussi, hein, mais... c'est ce qu'on on essaie d'améliorer le truc,
ouais.
Et pour peu que l'auteur soit dans le même optique que nous ou quelque part c'est améliorer son bébé, ouais. Eh bien c'est chouette. Bon, je sais qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas du tout qu'on retouche à leur création. Bon, bah soit, mais soit dit, il peut y avoir des choses parfaites dès le début, mais je pense que c'est plus rare.
Ok. Et donc dans ce contexte de d'amélioration de création, en fait, vous avez votre expérience du marché, j'imagine,
Quand tu dis expérience du marché, ouais. Ça voudrait dire que on ne fait pas un bon jeu, mais qu'on fait uniquement un bon produit. C'est un truc qui va se vendre.
C'est une question ouverte. Ouais.
C'est effectivement un truc important. C'est que bon, bah, éditer des jeux, c'est bien, mais en finalité, il faut quand même que les jeux rapportent un peu, sinon la société elle ferme et je peux pas payer mon loyer à la fin du mois. Donc, il faut quand même que le jeu soit aussi un bon produit. Mais si en plus c'est un bon jeu et que les gens prennent plaisir à y jouer, eh ben, je dirais là c'est bingo sur tous les tableaux. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire.
Ouais. Je crois qu'on a bien compris ce qu'est un éditeur dans l'optique du développement du jeu. Donc sur base d'une idée, comment on va la faire évoluer pour en faire un produit. Ben, bon, malgré tout, c'est un produit. On en a parlé, mais qui accrochera l'œil, qui accrochera l'oreille et qui accrochera les émotions pour en parler autour de soi, pour rejouer, etc.
Oui. Peut-être une petite parenthèse vite fait pour parler de l'optique produit. Donc, je vais reprendre l'exemple de Cash & Guns, comme ça ce sera complet. Ouais. Donc ce brave Cash & Guns, au début, on l'avait pensé pour des joueurs, donc on avait fait des images fortes, un peu au parrain, des images très contrastées, noir, blanc, rouge pour le sang, basé sur des photos très contrastées. Ouais. Et voilà, on pensait l'éditer comme ça. Et pour l'avoir testé et fait retester dans des conventions, on s'est rendu compte que bien souvent, c'était les gamins qui arrivaient avec leurs parents en disant « Viens maman, on va aller tuer papa, c'est trop rigolo comme jeu. » Bon, faut dire qu'aussi, on avait prévu à l'époque de l'éditer avec des flingues en plastique ou en métal, enfin avec des flingues qui avaient l'air réalistes.
Ouais.
Ce qui était assez irréaliste d'ailleurs au point de vue produit, parce qu'on aurait eu un produit en magasin qui aurait été à plus de 50 euros, ce qui était tout à fait absurde pour ce type de jeu. Jusqu'au jour où on a eu l'idée de se dire « Mais voilà, c'est les gamins qui adorent y jouer, c'est vraiment orienté famille, les gamers y prennent plaisir aussi. » Eh ben, on va tout dédramatiser. On a pris Gérard Mathieu, donc qui fait des illustrations délire, mais où un adulte se retrouve dans les illustrations parce qu'elles le font sourire. Ouais. Et surtout, on a mis des flingues en mousse, qui, malgré le fait qu'ils aient un profil de flingue réaliste, ça reste de la mousse. Donc, ce n'est pas aussi agressif que si on se braquait avec des Magnum 44 chargés. Et voilà. Donc là, dans ce cas-là, ça a été un développement produit, parce que ça ne change strictement rien au jeu. Mais dans ce cas-là, c'est le produit qui s'est trouvé modifié et qui, à mon avis, a pu trouver un plus grand public, et donc bah, par conséquent, mieux se vendre.
Oui, tout à fait. Et donc, justement, il y a d'autres acteurs dans cette histoire-là, c'est effectivement l'illustrateur. Donc Gérard Mathieu, bon, c'est un habitué maintenant, je pense.
Oui, bah, en fait, je me suis arrêté au fait que, bon, voilà, on a sélectionné le proto, on a testé le proto, on a fait le développement, mais que se passe-t-il? Parce que c'est toujours dans une boîte à chaussures pour l'instant. Alors, comment faire sortir ce jeu de sa boîte à chaussures?
Absolument.
Eh bien, on va le formaliser, l'illustrer, le rendre plus beau. Et comment est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, là, c'est le gros boulot, l'un des gros boulots de l'éditeur. Mmh. C'est de contacter un dessinateur, un graphiste, un infographiste, de faire réaliser les illustrations correspondantes en disant, ben voilà, ici, on aimerait bien un mec qui braque un autre avec un fusil de chasse, mais il faut que ça corresponde. Il faut pas qu'il soit bien en chasseur pour pas que les chasseurs soient vexés. Voilà. Et donc, bon, donc il y a le côté où on pilote, où on drive le dessinateur. Mm-hmm. Dessinateur qui, bien sûr, apporte son coup de patte, ses idées aussi. Il y a aussi à nouveau un échange et ça peut se comparer au développement. Après tout, c'est lui le spécialiste des images. Donc lui, on dit, voilà, on veut un mec avec un fusil de chasse. Ouais. Et lui, derrière, va déconner en disant, je rajoute ça ou je rajoute ceci. Mm-hmm. Par exemple, dans le cas de Gérard Mathieu, on lui a dit, voilà, on veut une nénette un peu ninja qui balance des étoiles. Gérard Mathieu a dit, bah, je vais la faire en jaune avec une bande noire pour rappeler Bruce Lee. Et je vais lui mettre une bague avec un viseur dessus. Ce qui est totalement absurde, mais ce qui est très drôle. Ouais. Ce qui correspond bien au jeu. Donc ça, c'est une illustration qu'on retrouve dans Yakuza. Donc les illustrateurs vont bosser et vont faire des belles images. Ok. Mmh. Après ça, il y a toute la PAO. Mmh. Il va falloir rassembler ces images, les mettre dans des fichiers, envisager la quantité de carton qui va être utilisée dans la boîte. Est-ce qu'on a besoin d'une troisième planche de carton? Ah non, on peut pas parce que ça fait trop monter le prix du jeu. Donc il faut à tout prix qu'on fasse autrement. Ah, mmh. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut réduire telle taille. Donc il y a le choix des qualités de cartes, le choix des qualités de carton. Il y a vraiment plein d'intervenants qui interviennent. Je sais pas ce que je dis, intervenants qui interviennent. Enfin bon, qui rentrent dans la production du jeu et jusqu'à ce que on parte à l'usine. Ouais. Donc vraiment, ça va même de l'analyse des qualités de vernis. En disant, est-ce qu'on veut que la boîte brille? Est-ce que les cartes doivent beaucoup glisser? Est-ce que les cartes doivent être épaisses? Est-ce que les cartes vont être beaucoup manipulées? Est-ce qu'il va falloir qu'elles se redressent? Est-ce qu'il va falloir qu'elles résistent à la transpiration? Ah oui, mais un jeu comme Time's Up où on reste crispé ouais. sur les cartes après avoir fait des mimes et tout, ce sont des cartes qui résistent quand même plutôt bien à ce genre de choses. Ouais. Alors que dans d'autres jeux, les cartes sont regardées en début de partie et après sont juste mélangées plus tard. Ouais. Donc on ne demande pas au matériel d'avoir la même résistance d'un cas ou dans l'autre. Et puis on va aussi réfléchir donc là à l'aspect produit du jeu. Mmh. Quelle est la bonne taille de boîte pour que tout rentre dedans? Ouais. D'ailleurs, on a fait des boîtes de Santiano, je l'avoue, un petit peu petite, avec beaucoup trop de matos, et les gens doivent tasser leur boîte pour ranger.
Non, il y a une technique, on peut.
Oui, il y a des techniques, oui, on sait.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup changé. On a beaucoup
voilà, mais bon, jusqu'alors, personne ne s'est plaint d'avoir une boîte trop remplie avec du matériel.
Mais ça
de fait
un peu Saint-Nicolas chaque fois qu'on ouvre la boîte. Oh
voilà, c'est Noël. C'est Noël. Donc, voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Mm-hmm. Et une fois que les graphismes sont prêts, que les règles ont été re-rédigées et mises au net, donc ça se fait toujours naturellement en collaboration avec l'auteur. Ouais. Mais des fois, il faut rajouter des exemples dans la règle. Mmh. Il faut être redondant pour éclaircir certains points. Mmh. D'autres fois, il faut au contraire résumer parce qu'on s'étend de trop. Mmh. Faut pas hésiter même, c'est plus à la phase de développement, des fois à sacrifier une règle, même si elle apporte un petit quelque chose au plaisir du jeu, si elle rajoute une page et demie de règles pour cas particulier. C'est que c'était pas une bonne règle.
Peut-être pas inclus. Ouais.
Voilà. Donc il y a un travail de pas de nettoyage, mais d'épuration. Quoi, mm-hmm. On va polir le jeu pour en enlever les aspérités et que ça devienne brillant. Ouais. Et une fois que tout ce monde-là est intervenu, eh bien le jeu part en commande à l'usine, ou plutôt les fichiers partent à l'usine. Usine qui a reçu notre commande de jeu. Donc naturellement, ça ne coûte pas le même prix par unité que l'on produise 100 boîtes, 1000 boîtes, 3000 boîtes ou 10 000 boîtes, ou 100 000 boîtes.
Donc ça c'est la fameuse, un exemple très simple, c'est le thermoformage qu'on a parfois dans les boîtes pour mettre les pions et les cartes. Ça doit être fait pour ce jeu-là. Et donc les machines qui vont être mises en place ou tout le matériel qui va être mis en place à un certain coût, et donc plus on fait de production, voilà. Moins
mais
ça
en fait, c'est plutôt le moule qui coûte cher dans un thermoformage. Mm-hmm. Donc plus ou moins pour faire un moule de thermoformage, ça coûte entre 1000 et 2000 euros. Mm-hmm. Enfin, après, tout est relatif de la taille du moule, de la complexité des formes, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, 1000 euros. Si maintenant vous faites 1000 boîtes, le moule vous a coûté 1 euro par boîte. Voilà. Si vous en faites 10 000, le moule n'a plus coûté que 10 cents par boîte. Mm-hmm. Bon, sachant qu'après, le plastique qui sert à composer le thermoformage ne coûte que 2 cents par boîte, et là, ça devient tout à fait négligeable. Mm-hmm. Donc, sur certaines boîtes, et il va être beaucoup plus intéressant de passer en thermoformage plutôt qu'en cale carton. Oui. pour des questions de coût.
Oui.
Bon, après, on peut prendre la décision, tout comme on l'a fait pour Cash and Guns, de vouloir rester en cale-carton parce que c'est plus chouette, parce qu'on peut mettre des illustrations dessus, mmh. parce que, on va dire, c'est mieux pour l'environnement. Et bon, bah, c'est un parti pris, mais après, il faut que ce puisse rester assumable en termes de coût de prod, parce que le coût de production se répercute naturellement sur le prix du jeu en magasin. Et je comprends que les gens me disent « Ouais, mais moi, je préfère acheter ce jeu 30 euros que 35 euros. Mmh. » Mais parfois, on est tributaire de la production. Ou alors, on va mettre du matériel de moins bonne qualité, des cartes qui vont se marquer, du carton plus fin qui va se corner. Et bon, bah, ce ne sera pas agréable. Non. Et les gens diront « Oui, mais au moins, j'ai payé mon jeu 25 euros. » Après, la question réside dans le fait de sans vouloir faire du jeu de luxe, de faire un produit de qualité à un prix acceptable. Ouais. Et bon, bah, on essaie de coller au mieux à ce qui peut se faire. On ne réussit peut-être pas toujours, mais je pense que c'est pas trop mal.
Non, jusqu'à présent.
Ça, voilà. C'est donc bien. Ça, c'était la suite donc du boulot, c'était l'usine. Mm-hmm. Alors que se passe-t-il? Ben, un beau jour, l'usine, après vous avoir envoyé la facture, vous dit tiens, les boîtes sont prêtes.
Donc, les chercher maintenant.
Voilà, donc il y a le métier du banquier qui est super important, mais là on s'en fout. maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les boîtes? Bah alors, ces boîtes doivent être livrées quelque part, mais on peut pas dire à l'usine, voilà, il faut envoyer 6 boîtes à tel magasin, et puis 6 boîtes à tel autre, et puis 6 boîtes à tel autre. Non, ça c'est impossible. Ça marche pas bien, puis c'est long, puis ça coûte cher en essence. Mmh. Ou en gazole. Donc, ce qu'on fait, il y a des gens dont c'est le métier, ça s'appelle les distributeurs.
Voilà.
Et en fait, bah, le distributeur va recevoir les boîtes. Donc, nous, en tant que robot production, on va conserver une partie de nos boîtes qu'on va stocker. Mais, par exemple, on va en livrer 500 ou 1000 chez notre distributeur.
Ouais.
Le distributeur, bah, comme son nom l'indique, distribue. Lui garde ses boîtes en stock. Et lui a les contacts avec les magasins. Lui a, non pas les 5 références d'un éditeur, mais a les 5 références de 200 éditeurs ou de 300 éditeurs, et donc va pouvoir livrer au magasin 6 boîtes de ceci et 6 boîtes de cela et 12 de celui-là parce que c'est un jeu qui marche bien, et puis une boîte de celle-là parce que c'est juste pour essayer.
Ouais.
Bon, des fois tous les jeux ne se font pas l'unité, mais ça arrive.
Ouais.
Et donc ce qui va permettre à un magasin de faire une commande plus facilement que si je lui dis voilà, la commande minimum pour moi c'est 60 boîtes de Cash and Guns. Il va tousser et c'est normal parce que il va les écouler sur plusieurs mois au lieu de tranquillement le faire sur un mois et puis recommander quand il n'en a plus. Donc ça c'est le métier des distributeurs. Donc bah, pour l'instant on est distribué en Belgique par Audin, ils ont des gens qui travaillent très très bien, en France par Asmodée, en Allemagne par Heidelberger.
Bien, donc la dernière chose, bien, c'est finalement, comme tu l'as dit, de recevoir les jeux en magasin pour
voilà. Alors, vendre. La dernière étape, c'est que ce distributeur donc revend les boîtes au magasin, donc par moins d'unités, je veux dire par des colisages plus petits. Et après, les magasins, eh bien, eux, bah, revendent au public. Au public. Sachant que les magasins auront un rôle aussi très important dans l'affaire, c'est que le distributeur lui fait des démos au magasin, et après le magasin fait des démos aux joueurs.
Oui.
Moi je suis ravi quand je vois des magasins où il y a une table de jeu qui n'a pas été remplacée par une étagère avec des nouveaux produits, mais qui reste une table de jeu où on peut faire des démos, où le tenancier, appelons-le comme ça, va prendre le temps d'expliquer un jeu, va donner envie aux gens de jouer, et ce temps qu'il passe, mais c'est du temps qui n'est pas investi pour rien, parce que les gens vont jouer, les gens vont prendre du plaisir à jouer, ils vont faire jouer leurs amis, ils vont faire jouer leur famille, leurs enfants. Et donc, quelque part, c'est à nouveau, si on bêtement on se basait sur du calcul, ce serait bénéfice pour le magasin.
Ouais.
Bon, heureusement, il y a aussi quand même l'amour du jeu et l'amour de communiquer ce qu'on aime. Là, on peut saluer les magasins qui prennent la peine de faire ça. Franchement, bravo, quoi.
Bien, sur la distribution des boîtes, tu as parlé d'un certain nombre de boîtes à produire. Quels sont les critères, en fait, pour un éditeur qui lui permettent de dire « je vais faire 1000 boîtes, 10 000 boîtes ?» Quelle est la réflexion qu'on se fait là-dessus?
Plusieurs critères. Déjà, est-ce que le produit, parce que là on parle de produit à ce moment-là, s'adresse à un public assez large? Donc, si c'est un jeu qui est jouable en famille et tout, bon, ok. Ça se produit pas au même nombre d'exemplaires que un wargame dont la partie minimum dure 23 heures et qui s'adresse à des gens capables de jouer avec des pinces à timbre en regardant les pions avec des loupes.
D'accord.
dans ce cas-là, on n'en produit pas le même nombre d'exemplaires. Non. Donc ça, déjà, il y a le public cible. Mmh. Ensuite, il y a le coût de fabrication de la boîte. Mmh. Parce qu'il y a des jeux qui reviennent très chers à produire, comme Cash and Guns avec tout le matos qu'il y a dedans. Mmh. Ça, forcément. Après, il faut voir le cash flow de la société. Mmh. Si la société... c'est pour se dire, voilà, on a les épaules, on produit carrément 10 000 boîtes, allons-y, soyons fous. Et puis, on va les vendre sur un an, deux ans ou trois ans. Il faut savoir qu'après, c'est des petits sous qu'on n'a pas pour éventuellement produire un autre jeu.
Oui.
Donc, il y a une démarche de réflexion qui se fait derrière. Mais là, c'est plus de l'économie que de l'édition de jeu. C'est du prévisionnel.
Oui, tout à fait. Et lors des discussions avec des éditeurs, j'ai entendu parler du fait que certains éditeurs assemblent leurs boîtes eux-mêmes.
C'est plus de la micro-édition, va-t-on dire. Ouais. Ça, je pense qu'on le fait au début si on est super motivé, que c'est l'un des seuls moyens pour permettre au jeu de voir le jour et, mm-hmm. et qu'on est d'accord de sacrifier deux semaines complètes à recompter des pions.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense que dans le monde de l'édition, plus personne ne fait ça, sauf... Mm-hmm. Sauf des gens qui se lancent, qui s'y essaient. La plupart du temps, ce sont des auteurs qui ont voulu éditer leur jeu eux-mêmes.
Oui, c'est ça.
Je salue l'effort et mm-hmm. on peut assister à des choses qui par la suite se dévoilent sur le marché, hein, comme mm-hmm. Mr. Jack qui maintenant se vend beaucoup. Au début, ça a été une édition faite à la main.
Ouais. Et je crois qu'il fait 250 boîtes.
J'en ai une ici. Mais on peut saluer le travail qui a été fait de ce côté-là, parce qu'il faut être, c'est titanesque, il faut être super courageux.
Ouais, ouais.
Moi, je dis bravo, je l'admire.
Bravo. Alors, écoute, je crois qu'on a brossé un joli portrait de vos activités et des différents jeux qui sont dans votre actualité. L'actualité directe, on est en octobre, on s'approche des Suns méchamment.
Voilà, il y a l'actualité de l'année prochaine. Mm-hmm. Je vais juste glisser deux mots. On a déjà deux jeux qui sont signés pour l'année prochaine. Mm-hmm. On a un jeu donc de Friedman's Freeze avec Marcel André et... et Andréa Meyer, mm-hmm. Qui est en fait un jeu de dessin en duo, par équipe. Qui s'appelle Monster Mauler, donc que l'on va sortir en boîte à nouveau un party game. Mm-hmm. Et pour une fois, nous n'allons pas sortir un party game, vu que nous allons sortir un jeu un peu plus sérieux, un petit filler, on va appeler ça, un jeu qui dure moins d'une demi-heure pour remplir, je dirais, un creux, les joueurs retardataires, etc. Qui est un jeu du docteur Knizia. Rien que ça, mais que l'on est en train de redévelopper. Donc en fait, on a rendez-vous avec lui prochainement pour voir s'il accepte nos développements.
Ouais, ouais, ouais.
Donc parce qu'on on a carrément retouché son bébé, et normalement tout devrait bien se passer. Ouais. Et ça devrait voir le jour, je pense, pour on va dire le premier trimestre 2008.
Joli.
C'est un jeu qui s'appelle Pickpocket.
D'accord.
Et ce sera illustré cette fois-ci par Olivier Fanière, qui a fait le Mexican Hold'em Poker.
Voilà, ouais.
Et qui a fait aussi Bonne Question.
Très bien. Ok, justement, quels sont les jeux qui t'ont accroché l'œil pour l'instant? Est-ce que tu te dis, tiens, si j'avais 5 minutes au lieu de dormir, je jouerais bien à tel jeu? Est-ce que tu as une...
Ah, mes jeux préférés, c'est un peu la question, ou mes jeux préférés du moment? Dans les jeux préférés du moment, j'ai découvert Edge of the Empire 3, qui est un très chouette jeu. On retrouve un peu un côté Puerto Rico, Kailus. Donc, c'est pas du territoire inconnu, c'est pas hyper innovant, mais c'est super agréable. Mm-hmm. Et puis, il y a des tonnes de petites figurines en plastique, donc le chat aime bien jouer avec aussi. donc ça, c'est sympa. Il y a chez Istari, Amitis qui va sortir. Oui. Qui est vraiment
vrai.
Un chouette jeu pour lequel j'ai eu le coup de cœur. Bon, c'est peut-être parce que les premières parties, j'ai gagné, et puis forcément, après, ça déforme ça la booste. Vision du jeu. Ouais. Hein, on n'est plus tout à fait objectif, mais j'aime beaucoup.
Mm-hmm.
Donc, qui sont, à mon avis, les jeux du moment pour moi.
Mm-hmm.
Sinon, dans les jeux de toujours, que j'accroche depuis un certain temps, il y a Heroescape, un jeu de figurines où on jette des pelletées de dés, et ça, je le recommande, c'est très drôle.
Mm-hmm.
Ou très sérieux si on le veut, mais enfin bon, il y a quand même les dés qui sont là pour bouleverser tout ça. Il y a Time's Up. Time's Up, enfin bon, là, les gens vont dire ouais, c'est pas objectif parce qu'il l'édite lui-même, mais j'assure vraiment que Time's Up est mon jeu préféré. C'est le jeu où je prends le plus de plaisir à jouer.
Mm-hmm.
Et voilà, et puis parce que je suis un peu zimboum, de temps en temps je joue à 7, qui est un jeu d'identification visuelle et où il faut être le premier à recomposer un trio de cartes et qui est aussi un très très bon jeu.
Alors, si vous cherchez bien, avec les bons mots-clés, vous trouverez sur Google une adaptation flash de 7 faite par monsieur Cédric Como.
Oula, toi t'as fait des recherches, hein. T'as poussé un peu trop loin tes recherches, je trouve.
Je l'ai trouvé. Mais c'est un joli concours de circonstances. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Donc, c'était rigolo. Ok, bien, merci beaucoup. Une société d'édition à 2 personnes, c'est bien. Est-ce qu'il y a une idée d'expansion quelque part ou...
Alors, une société d'extension de une extension de société. Non, je sais plus dans quel sens. Il est fort le café. Bon, non. Bah écoute, oui, c'est très bien de bosser à 2 parce que il y a toujours le regard de l'autre. Mm-hmm. Parce que des fois, on part dans une direction et l'autre freine des cas de fer et on se demande pourquoi et donc ça oblige à remettre en cause certaines questions. Mm-hmm. Et d'autres fois, on est tous les deux à foncer dans le même sens. Et là, justement, on ne se pose plus de questions en disant, donc, jusqu'alors, c'est notre façon de fonctionner. Mm-hmm. Maintenant, au point de vue de fonctionnement réel de société, deux, c'est un peu court parfois, vu la quantité de boulot. Donc, on espère, si la société continue de se développer selon le même schéma, pouvoir un jour embaucher quelqu'un. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On cherche un ou une stagiaire. Mm-hmm. Voir deux stagiaires, parce qu'on a deux domaines que l'on recherche en ce moment. Mmh. On cherche quelqu'un capable de faire du graphisme, de la PAO et de l'Internet pour nous aider à remettre un peu notre site à jour et pour travailler avec nous sur certaines choses. Mmh. Et on recherche aussi, là c'est un peu plus particulier, c'est pour des projets top secret, une stagiaire en vidéo. Mmh. Vidéo et production vidéo. Parce qu'on a des petites idées, des petites envies de ce côté-là, avec des prototypes qui tournent depuis très longtemps, donc que certains ont vu, même si c'est super, super top secret. Et y a tout à fait la place pour faire un stage sympa en vidéo chez nous.
Okay.
Donc, voilà. Voilà. J'en profite. Donc, www.airprod.com, vous trouverez notre adresse email. N'hésitez pas à envoyer votre candidature.
Non, tout à fait. Mais sinon, vous me contactez en direct aussi, on transmettra. Bien, un tout grand merci. Merci pour l'accueil et on se recroisera à mon avis à Essen. Je passerai avec mon petit micro.
Oui, nous aurons notre stand, c'est le 9-15. Oui. On vend l'extension Yakuza pour Cash and Guns.
Oui.
Mais là, c'est la limitée, c'est-à-dire avec une arme bonus supplémentaire qui sera cette année le Uzi. Et Lex Ludis, signé de Ludovic Maublanc, avec une illustration originale de Gérard Mathieu, uniquement tirée à 500 exemplaires. S'il vous plaît, monsieur, que ça c'est du collector.
C'est
que vous
extraordinaire.
Le revendez dans 10 ans sur eBay, vous pouvez payer les études de vos enfants.
Ok, ça va.
Voilà.
C'est noté. Ça va.
Voilà, donc 9-15 à Essen.
Ok, j'ai vu sur le site qu'il y avait moyen de réserver cette fameuse boîte.
Oui, il faut le faire parce qu'on n'en a que 500 extensions.
Et vous avez déjà combien de réservations?
Là, on approche des 300, je crois.
Ah, ok.
Donc,
c'est bon à savoir.
Voilà, il reste 15 jours. Dépêchez-vous.
Vite. Ok, Cédric, merci beaucoup. Je serai ravi de croiser Thomas la prochaine fois où on se refera.
Oui, si un jour il sort des embouteillages.
Voilà.
Donc, d'où l'avantage d'avoir deux personnes dans l'entreprise, c'est qu'on peut en mettre un dans les embouteillages et un au podcast.
Voilà, exactement.
Ouais, merci beaucoup en tout cas.
Un grand merci. Vous retrouverez donc Repos Production, cette étonnante société d'édition de jeux de société belge. La société est belge, les jeux ne sont pas spécialement belges.
Bon, ça dépend.
Bah, oui,
c'est quand même un bon bois de cast.
Oui, tout en fait. Et donc, sur airprod.com, et sinon on les croise un peu partout. Quand vous voyez un sobrero qui dépasse au-dessus de la foule, c'est qu'ils sont là. Merci beaucoup.
Merci.
Et n'oublie pas d'aller jouer, Cédric.
Oui, je vais essayer. Ouais.